La rosée.
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 La rosée, une émission culture, et pas que. On y parlera théâtre, on parlera musique, on fera le tour des lieux et des événements. Il y aura des invités, du live, tous les troisièmes lundis du mois, à partir de 16h30 et jusqu'à 18h, sur Radio Galère 80.4.
Bienvenue sur Radio Galère, à l'émission La Voix du Bétier. Je suis Luce.
Et je suis Laetitia.
Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire... Je te laisse présenter l'émission du jour.
Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu particulier. Hier soir, je suis allée voir une grande copine à moi. Et en fait, on s'est retrouvés à revoir des épisodes de Charmed. Comme c'est une copine d'enfance, on s'est dit, c'est quand même drôlement drôle, puisque 25 ans plus tôt, on était sur un canapé en train de regarder Charmed aussi. Donc les choses n'ont pas vraiment changé depuis. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas un hasard si j'aimais tant les sorcières, puisque je me suis rendu compte que j'avais grandi dans l'époque où on fêtait beaucoup Halloween en France, ce qui n'est plus le cas chez les enfants aujourd'hui. Et du coup, je suis allée chercher des œuvres qui étaient emblématiques pour moi et que j'ai vues quand j'étais enfant et ado. Et je me suis dit, pourquoi pas te faire faire un petit quiz des œuvres audiovisuelles des sorcières qu'on a vues quand on était petit.
Eh ben allez, banco hein.
Ça t'est chaude ?
Ben oui, bon. Tout à fait.
Alors, ne regarde pas l'ordi, sinon c'est de la triche.
Regarde, je tourne le dos.
Je vais te faire écouter des extraits et tu vas essayer de les retrouver. Est-ce que t'es partie ?
C'est parti.
Esclave du miroir magique, à court du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle ! Et montre-moi ta face.
C'est quand elle fait la
que
pomme.
Que veux-tu voir, ma reine ?
Ah non.
Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?
Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que toi.
Décris-la-moi. Apprends-moi son nom.
Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige.
Blanche-Neige.
C'est Blanche-Neige, yay!
Oui, et d'ailleurs, c'est complètement Blanche-Neige, évidemment, mais hier, dans l'épisode, dans un des 5 épisodes qu'on a regardé avec ma pote, il y avait une reprise de Blanche-Neige par Charmed. Et c'était vachement intéressant parce que la sorcière maléfique, elle ne demandait pas qui est la plus belle, mais elle demandait qui est la sorcière la plus puissante. Et forcément, on va lui répondre, les sœurs Halliwell sont plus puissantes que toi. Et du coup, j'ai commencé par cet extrait parce que c'est le plus vieux, Disney. C'est tout le premier long métrage de dessin animé occidental.
C'était 1927.
C'est vraiment le son, quoi, l'arrivée du son. Et en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans les sorcières dans la culture populaire, c'est qu'il y a un délire autour de la beauté, quoi. Tu vois, notamment dans Blanche-Neige.
Exactement.
C'est vraiment... Parce que je me suis demandé aussi qu'est-ce qui faisait l'attrait des sorcières, quelles étaient leurs caractéristiques.
Alors que dans certaines croyances, les sorcières ne sont pas très belles. Elles ont le nez crochu, avec une verrue. Elles sont représentées comme des méchantes sorcières toutes aigries.
Oui, puis dans Blanche-Neige, pareil. Enfin, au bout d'un moment, quand elle va se... Bon, elle, c'est pour des questions de déguisement, pour que la belle-mère a peur de... Enfin, la belle-mère a peur de que Blanche-Neige la reconnaisse pour quand elle va lui donner la pomme. Et du coup, elle va se déguiser en très vieille dame avec un capuchon noir. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec ma mère, qui, elle, l'a vue au cinéma petite. parce qu'il y avait eu une rediffusion, et elle m'expliquait qu'elle l'avait vue à 5 ans et qu'elle avait été terrorisée.
Tu m'étonnes.
Par la sorcière, elle en faisait des cauchemars, elle a dû sortir de la salle et tout, genre... Mais voilà, donc effectivement, c'est un truc auquel je me suis intéressée, enfin, que je garde en tête quand on va voir tous ces extraits-là, c'est le concept de beauté chez la sorcière. Soit elle est sensualisée,
sexualisée
au possible, c'est un peu la femme fatale.
Souvent, d'ailleurs, ce qu'on considère donc hystérique, utérus, c'était les sorcières, du coup, elles étaient punies par rapport en fait au fait juste d'être une femme finalement, d'être une femme indépendante d'une certaine année.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait si on lit les sorcières et la chasse aux sorcières d'une façon athée, c'est-à-dire que si on se dit que le monde spirituel n'existe pas, tout ce qui est chasse aux sorcières, on se dit en fait que c'est des veuves, que c'est des femmes en fait.
Indépendantes.
Ouais, voilà, qui se sont dit, j'ai pas besoin du poids d'un homme pour pouvoir réussir ma vie, quoi. Et du coup, c'est des femmes, en fait, qui sont indépendantes,
qui ont du caractère.
Voilà, qui sont même indépendantes financièrement, puisque en fait, les femmes travaillent depuis toujours, hein, mais par contre, le nom sur le compte bancaire pour recevoir la thune, c'est le nom du mari ou des frères. Ouais, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi une fausse idée de se dire que les femmes ne travaillaient pas, que en fait les femmes ont commencé à travailler quand les hommes sont partis à la guerre et qu'on s'est dit mince, on a besoin que les épouses reprennent les champs. Et en fait les femmes elles ont toujours travaillé. Par contre c'était pas elles qui avaient le nom de la boîte quoi, le nom de la boucherie, qui avaient le nom des comptes, etc. Mais elles travaillaient notamment dans les classes populaires. Puis il y a aussi tout un truc de, je pense aussi que beaucoup des représentations de la femme qu'on a dans le passé, c'était beaucoup des représentations nobles. C'est-à-dire que nos descendants à toutes les deux, qui devaient être probablement des paysans, des paysannes, t'inquiète, elles n'avaient pas la thune de commander, ne serait-ce que faire un portrait d'elles par un grand maître, tu vois. Enfin, donc c'est vrai qu'on a beaucoup l'image des grandes bourgeoises dont le métier, en fait, est d'être choisie par un homme riche. Mais on ne représente pas tant nos ancêtres à toutes, qui étaient pour la plupart des meufs qui travaillaient dans des champs, qui étaient des femmes d'artisans, donc qui étaient elles-mêmes artisanes, tu vois. Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était un truc qui m'a beaucoup marquée sur le fait de... Dans les sorcières des années 2000, en tout cas pas forcément des années 2000, mais des choses qui étaient diffusées quand j'étais enfant, ce truc de la beauté qui revenait, quoi. Donc je te propose un deuxième extrait.
Ça marche.
Hop, je vais juste vérifier... un petit truc, donc ne regarde pas l'écran parce que Ludivine ici présente et la dernière fois a été très coquine et essayait de répondre aux questions en regardant l'écran. Voilà.
Non, okay. Promis, je ne ferai pas ça.
Est-ce que tu es prête?
Tout à fait.
Ok. Est-ce que tu reconnais ça?
C'est Mary Poppins. Ah, ma sorcière bien aimée.
Tout à fait. T'as des souvenirs, toi, un peu de ma sorcière bien-aimée?
Femme au foyer.
Direct, hein, c'est le premier truc qui nous vient.
Femme au foyer des années 30.
Je pense 30, tu penses? Non, moi, je pense que c'était plutôt 50. Hein.
50.
Ouais, les années 30, c'est plutôt années folles. Tu vois, là, il y a vraiment un truc dans les images de la sorcière bien-aimée où il y a un truc un peu la ménagère. On sent qu'on rentre dans l'ère de trop bien... regarde, achète la machine à laver, comme ça tu pourras plutôt, tu seras libérée en tant que femme du fardeau
ouais,
de la lessive, tu vois.
Ouais, il me semblait que c'était dans les années 30 après-guerre, mais peut-être que tu as raison. En même temps, ne vous fiez pas à moi, au niveau des dates, je suis assez...
il me semble que c'est plutôt ça. Après, la question, c'est plutôt est-ce qu'on est dans les années 50 ou 60, ça je suis plus sûre. Mais effectivement, le premier truc auquel on pense, c'est le côté femme au foyer, femme parfaite, qui est toujours très bien maquillée, qui s'occupe bien
et
de son petit mari.
Et d'ailleurs, qui utilise ses pouvoirs pour sa maison, quoi.
Oui, c'est vrai.
En tant que femme au foyer, enfin, elle a des pouvoirs. La meuf, c'est genre une sorcière, elle a des pouvoirs hallucinants. Et elle les utilise uniquement pour faire des gâteaux à son mari, pour,
c'est vrai, en
pour nettoyer sa maison.
Alors, je sais pas si c'est pas bon. Après, j'ai pas regardé, revu toute la série pour tous les films qu'on présente là. Mais c'est vrai que j'ai... Genre, pour moi, dès que je me vois la sorcière bien-aimée, je vois uniquement des images d'intérieur. De sa maison.
Exactement. Ouais.
J'ai pas de souvenir d'image à l'extérieur, en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, je me souviens pas si son mec est au courant.
Qu'elle a des pouvoirs, bien sûr, si, si.
Si, si, elle est au courant.
Oui, il est au courant. Ouais.
Je me souvenais plus parce qu'ils ont l'air tellement.
Mais tu vois, c'était un petit peu la sorcière qu'on aime, bien aimée, tu vois.
Ouais, ouais, non,
la gentille sorcière, celle qui est une bonne femme au foyer.
C'est ça. Et...
qui accueille son mari à la maison quand il rentre du travail. Après son mari, justement, moi j'ai toujours eu une vision... Alors après, j'étais jeune, mais j'ai toujours eu une vision d'un mari assez... pas vraiment machiste, quoi. Enfin, machiste pour son temps, parce que sa femme, elle est à la maison, elle lui fait à manger et tout, mais pas exigeant, tu vois.
Bah, j'ai l'impression que le gros symbole du machiste, quand on parle vraiment de ce mot-là, on va beaucoup imaginer des hommes violents, tu vois, de violence conjugale, de blagues pas drôles.
Ouais,
tu vois,
oui, et de réflexion, d'exigence, ouais. De choses comme ça. Ouais.
Puis tu vois, il y a un délire où genre, je sais pas, genre... Bon après, c'est quand moi, je pose des questions à ma mère, elle qui est née en 58, et sur des trucs de féminité, comment je me pose des questions sur le couple, sur la maternité, etc. Et en fait, je me rends compte que... là où moi je vais être très précise dans mes interrogations vis-à-vis d'un partenaire, de comportement, de elle je sens que elle fait partie d'une époque où l'important c'était de trouver le bon quoi. C'est-à-dire que moi je vais me poser la question de est-ce que je veux passer ma vie avec un homme, est-ce que je veux passer ma vie avec un homme en me mariant, est-ce que je veux faire un enfant avec un mec et dans quelles conditions, etc. Et elle me dit mais moi à mon époque il y avait des meufs qui se mariaient pas mais la plupart des filles
tu te mariais, t'avais tes enfants,
ouais, c'était la vie,
ta maison,
il y avait pas de remise en question du mariage. Par contre l'enjeu féministe de son époque c'était plus de trouver justement un mec qui allait pas te frapper. Qui allait éventuellement faire la vaisselle. Tu vois ce que je veux dire ? Là où moi, je vais être en mode, mais ça, c'est le minimum vital, en fait.
C'est clair.
C'est, pour moi, ça s'appelle être adulte, en fait. Moi, quelqu'un qui va me dire...
S'assumer soi-même.
Non, mais c'est ça, un trentenaire qui me dit, je sais pas me faire à manger, je sais pas faire la vaisselle, quel que soit son genre ou son sexe, je vais me dire, c'est... qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi ? Tu vois ? Enfin, genre, quel est le problème qui domine ta vie, tu vois ? Enfin, genre... Donc, ouais, et bon... Et d'ailleurs, c'est un truc que je retrouve assez peu de mythologie. En tout cas, quand j'ai essayé de retrouver les films et les séries de mon enfance, j'ai pas retrouvé des hommes, quoi. Le concept du sorcier, il existe, mais il existe oui. assez peu, quoi. C'est vraiment,
il est très souvent d'ailleurs maléfique. Le sorcier est très souvent maléfique.
C'est vrai, bon, mais tu vois, je pense par exemple.
Sinon, ce sont des enchanteurs ou tu vois. Mais moi, à chaque fois que j'ai vu sorcier, c'est quelque chose d'assez péjoratif, finalement.
Ouais, ouais. Puis c'est vrai que... Mais après, en anglais, ils ont plusieurs mots différents aussi.
Ils
vont dire « the witch » pour dire la sorcière. Le sorcier, ça va être « the warlock ».
Ou « the wizard ».
Ou « the withered ». Et après, ils ont « the magicians ». Et t'as tout un truc comme ça. Alors moi, je comprends pas encore assez bien quels sont les trucs. Mais le « warlock », par exemple, je l'ai toujours entendu dans un contexte très maléfique, justement. Là où « the withered », et plus un truc comme la sorcière, quoi, tu vois, enfin sorcier-sorcière. Mais ouais, il est assez. L'homme est assez absent. Et d'ailleurs, j'ai repensé à un bouquin. Je sais pas si quand t'étais plus jeune, t'as lu un bouquin, je crois qu'il est français, qui s'appelle Verte. Je sais pas si ça te parle.
Non, ça ne me parle pas du tout.
Et ben, Verte, c'est l'histoire d'une petite fille qui a à peu près 10-11 ans, je crois. Et les femmes de sa famille viennent lui dire salut, ben voilà, tu es une sorcière, comme toutes les femmes de la famille. Et donc, viens dans la cave, on va t'apprendre à manipuler des mandragores et à t'apprendre les usages des sorcières. Et en fait, il y a tout un truc dans Verte où chaque chapitre est écrit du point de vue d'une des personnes de la famille.
D'accord.
Et il me semble que la trame sous-jacente, c'est l'absence du père. Et donc, en fait, elle recherche son père, qui a été un peu exclu... du monde des femmes, en fait, et de la famille, par conséquent.
Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, entre sorcières. Les hommes sont bannis aussi.
Ouais,
il y a ce truc de... En fait, c'est un peu... C'est un peu comme une communauté de féministes.
Ouais, c'est vrai, il y a un truc un peu comme
qui
ça.
Qui ne veulent pas des hommes cisgenres.
Non, mais c'est vrai que c'est rare, les représentations des sorciers, des sorcières...
Ensemble.
En tant que communauté, quoi.
C'est vrai.
Est-ce qu'on passerait pas au prochain extrait ?
Allez, c'est parti.
Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête.
Charmante princesse, moi je vais te faire tout.
C'est... La Belle au bois dormant.
C'est complètement La Belle au bois dormant.
Yes.
C'est la première apparition de Maléfique. Enfin, je pense, je crois, hein, il me semble bien. On va voir ce qu'elle a à nous dire.
Ah oui, bah oui, quand elle va... Oui, c'est ça. quand elle arrive
au
baptême.
Que vient-elle faire ici?
Mais il y a là tout le beau monde, roi Stéphane. Leurs altesses, la noblesse, l'aristocratie.
Alors je voulais juste écouter ce qu'elle dit exactement.
Ah.
Il y a aussi la racaille. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas...
Déjà, elle appelle les trois bonnes fées la racaille.
Vraiment. Ah. Oh, et vous osez l'avouer sans...
Elle a des cornes.
J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. Mais puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en vais.
Oh, que votre Excellence excuse cet incident.
Bien sûr, votre Majesté. Je l'excuse au point que je vais... moi aussi, m'occuper de l'avenir de cet enfant. Ouvrez bien vos oreilles. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra.
Oh non!
Emparez-vous de cette sorcière.
Voilà. Alors je voulais attendre un peu voir ce qu'elle disait, parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que les sorcières sont représentées. Et typiquement, dans La Belle au Bois dormant, je comprends pas bien les enjeux de la sorcière. C'est-à-dire que la meuf, elle est pas invitée. Du coup, elle se vénère et elle dit « Ok, ben... ton enfant, il va mourir à 16 ans. »
Mais c'est ça qui est un... Est-ce que tu l'as vu, le film Maléfique, avec Angelina Jolie?
Ouais, ouais.
Bah, c'est un peu ce qu'ils expliquent, en fait. Il me semble, je m'en rappelle pas, mais il me semble qu'il y a peut-être une histoire d'amour, ou en tout cas, elle faisait partie plus ou moins intégrante de la famille, et puis elle a fait une erreur qui n'a jamais été pardonnée. Enfin, je sais pas, il serait intéressant de le revoir. Alors, j'ai une
il
mémoire
semble
de poisson
que
rouge.
Dans
donc...
la mémoire, en fait, Maléfique, c'est pas une humaine qui s'intéresse à la... aux sciences obscures, mais c'est une créature en soi. Tu vois, c'est comme un faux, enfin comme dans, tu vois, c'est une créature qui va être humanoïde avec des cornes et qui va être rejetée toute sa vie parce que c'est un monstre, tu vois. Mm. Et donc il y a tout un truc où je crois qu'elle...
Ah oui, c'est ça, elle est rejetée toute sa vie parce que... Oui, c'est ça.
Et en fait, elle voit Aurore petite et puis alors, je sais plus comment se fait la rencontre, mais en tout cas elle va la protéger. Elle a une sorte d'instinct maternel en fait.
C'est ça dans le film. Merci, c'était ça. Excuse-moi, tu vois, j'ai fait plein de... Effectivement, dans le film avec Angelina Jolie, ils expliquent pourquoi Maléfique est maléfique.
Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça super. Une super anecdote là-dessus, c'est qu'il y a une scène où en fait Angelina Jolie, enfin Maléfique, enfin il y a une scène où elle voit Aurore petite et en fait ils n'arrivaient pas à caster des enfants parce que ils avaient trop peur. Tous les gosses
chouchou.
Avaient trop peur de Maléfique, tu vois, en costume et tout. Et du coup en fait ils ont été obligés d'embaucher la fille d'Angelina Jolie parce que c'était le seul enfant sur Terre qui en fait voyait sa mère et du coup était trop contente d'aller vers Maléfique, en fait, tu vois, parce que pour elle, donc il n'y a pas de jeu dans cette scène, c'est juste la petite qui voit sa mère et qui essaye d'aller vers elle, et puis Angelina Jolie qui joue, quoi, tu vois. Enfin, mais voilà, mais du coup, il y a un truc comme ça. Après, c'est vrai que ce film, autant je vois pas trop les enjeux, parce que je trouve qu'on fait de moins en moins aussi aujourd'hui de personnages qui n'ont pas d'enjeux comme ça, très clairs, ils vont pas être méchants parce qu'ils sont méchants, tu vois, enfin, en général, il y a un pourquoi derrière. Mais par contre, j'y suis chère parce qu'il y a un côté... pour moi, en fait, quand elle dit qu'elle va se piquer le doigt sur un fuseau et quand elle va avoir 16 ans et elle va mourir, j'ai l'impression que c'est un truc un peu de... Bah, les règles arrivent, c'est le moment où t'as tes menstrues et du coup, tu n'es plus une enfant. L'enfant meurt, en fait, quelque part quand t'as tes règles, quoi, tu vois. Enfin, donc, il y a un truc un peu comme ça où... ou presque, je trouve maléfique et un peu plus lucide, quoi, que les bonnes fées, tu vois. Mais il y a toujours un truc avec la beauté, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment... pour réussir dans la vie, il faut que tu sois belle, hein. Il n'y a pas
à chier.
Quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas à chier.
Ce qui est parfaitement faux, soit dit en passant.
Tout à fait. Alors, on va voir un autre extrait. Hop.
Parler de la merveilleuse Madame Mime.
Ah.
Bah non, je regrette
Madame Mime.
Ah, Mime,
c'est ta âme. Non, c'est pas ta âme et le chaudron magique.
La plus merveilleuse sorcière. Regarde mon garçon, d'un coup de baguette, c'est mise à part les bulles, je dessèche une fleur. J'aime ce mille macabre et la terreur.
Oh, ça, c'est terrible.
J'arrive
plus
à
retrouver. Merci, mon petit, mais ceci n'est rien. Non, rien pour moi.
Je vois le garçon,
c'est
un petit
bon. Je suis la magnifique, merveilleusement, Madame Mime.
Est-ce que tu sais que je peux même changer de taille? Devenir énorme!
À l'infini.
À l'infini.
Je la vois tout à fait, cette Madame Mime.
Mon seul régal, c'est
ça devient
la
pas un dragon, à un moment? Ça devient un dragon, à un moment.
Pour moi, car je suis la magnifique, merveilleusement Madame Mime.
C'est un film aussi, il y a beaucoup de personnages, hein. C'est normal que tu sois trop fort.
C'est pas Merlin?
C'est complètement
Merlin
l'enchanteur.
C'est Merlin l'enchanteur, c'est ça.
Ah voilà, c'est ce qu'elle dit.
Oh, ça doit pas être
je peux me faire encore plus laide que je suis.
C'est pas...
Tu veux parier? J'ai gagné, tu vois. Je suis laide à faire.
Et ce rire aussi.
Parfaitement répugnant.
Très spécifique à la sorcière.
Oui, madame.
Mais tu n'as encore rien vu. Regarde.
Je peux être aussi plus tendre et bien plus belle. Avoir la voix qui en sort seule. La 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 la. Mais il ne faut pas s'y fier. Je fais dîme, ça m'arrive, bim! Et je suis la bête qui rentre. Moi, la magnifique, merveilleuse,
Voilà, je voulais attendre la fin de cet extrait-là parce que, justement, on parlait de, tu vois, d'être jolie et de tout ce truc autour de des représentations de la femme et de la sorcière aussi, ou d'être laide. Et je me souviens que ça m'avait marqué, cette Madame Mime dans Merlin l'Enchanteur. Parce que je me souviens petite qu'il y avait ce moment où elle dit « Mais regarde, je peux être belle si je veux. » Et ça m'avait marqué parce qu'enfant, je m'étais dit « Mais pourquoi elle n'est pas tout le temps
elle
belle ?»
Elle reste pas comme ça, ouais.
Ouais, tu vois. Et c'est maintenant que je me dis « En fait, ce personnage, il a grave la classe.
Ouais. »
Parce qu'il montre que la beauté, presque, c'est un truc temporaire, c'est un truc d'effort. Enfin, je veux dire, tu te doutes que si elle... que c'est une... En fait, qu'elle prend sur le même plan le fait de devenir super jolie avec le fait de se transformer en dragon, de devenir petite. Enfin, tu sens que c'est une opération de métamorphose.
Ouais, pour comme une autre.
Ouais, exactement. Et du coup, bon, je trouvais ça ultra, ultra stylé. Et c'est vrai que, par ailleurs, Madame Mime fait partie de Merlin l'Enchanteur, donc est quand même le dessin animé qui présente un homme sorcier, quoi. Mais d'ailleurs, on l'appelle l'enchanteur, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est malin. T'es chaud d'un autre...
Tout à fait.
D'un autre truc. Alors, c'est là qu'on va tester le... On va rentrer dans l'aspect, est-ce qu'on fait partie de la même génération? Hop là, on va voir si tu reconnais.
Un super épisode aujourd'hui.
Attends, c'est... C'est pas les jumelles, là
Les jumelles?
Attends.
Quelles jumelles?
C'est Sabrina.
Parmi la cinquantaine de séries, de
Tout
dessins
à fait.
Animés.
On est de la même génération.
J'ai retrouvé ça. Donc là, c'était la version filmée, hein, parce qu'il y avait aussi tous les dessins animés.
Oui. Oui, je vois, c'est la série avec... oui, je vois. Je regardais beaucoup de cette série.
Mais je les confonds. Hein. Moi, je confonds les épisodes animés et les épisodes pas animés. Mais...
Et d'ailleurs, il y a le nouveau Sabrina qui est très bien aussi et qui est un peu plus dark. Tu vois.
Moi, j'ai été un peu... je suis très mitigée sur le nouveau Sabrina. Quoi. C'est-à-dire que en termes, enfin, tu vois, genre d'intention, de réal, etc. Enfin, tu vois, c'est agréable de voir une série très moderne reprendre ce compte-là, quoi. Mais en fait, c'est un truc qui me dérange un peu beaucoup sur les séries américaines d'ados. C'est-à-dire qu'en fait, ils font de la fausse provoque, quoi. C'est-à-dire que soit tu fais une série, ben, tu vois, à la Skins ou à la Euphoria, où vraiment tu dépeins des adolescents tels qu'ils sont, avec leur perversion. Et en fait, ils sont très autonomes. Ça fait très peur quand t'es parent, d'ailleurs, de voir ce genre de série.
Exactement. Je
Mais dans Sabrina, il y a un truc où en fait, c'est comme si elle se déguisait en meuf comment dire, transgressive, mais qu'en fait, dans ses actions, dans ses choix de vue, des choix de vie, elle est hyper puritaine. C'est-à-dire que tu vois...
Alors non, elle est toujours... les premiers épisodes, c'est ça, en fait. C'est dès qu'elle découvre que c'est une sorcière... Que, en fait, quand elle découvre qu'elle est la fille du diable, etc., qu'en fait, son comportement commence à changer, tu vois. Mais au début, si tu regardes, elle est super petite fille tranquille, jamais de problème, qui dit toujours oui à tout. C'est au tout début, les premiers épisodes, c'est une sainte nitouche. Excusez-moi, ouais, j'aime pas trop cette expression, mais clairement, tu vois, c'est une enfant. Et du coup, peut-être, c'est ça, justement, sa voix, l'évolution, en fait, de justement, de l'enfant qui passe vers l'adolescence et dont le caractère va se transformer.
Tu vois, genre, je sais pas comment dire, dans le traitement et du scénario, dans le regard sur l'ado, il y a tout un truc, par exemple. Tu sens qu'ils font des pataquès, ça les Américains font des pataquès sur elle va faire sa première fois, tu vois. Et ouais. Tu sens que la sexualité de l'adolescence, la sexualité naissante d'une adolescence, chez les Américains particulièrement, puisqu'en France on traite pas tant l'adolescence en vrai sur les séries, c'est sacré. Tu vois, c'est sacralisé.
Si, mais bonjour les trucs et les séries qui traitent sur l'adolescence, tu vois. C'est Clem qui devient enceinte à 16 ans, non, hein, tu vois, des trucs comme
ça. Mais tu vois, il y a un délire où je trouve que même dans Sabrina, il y a un truc où c'est un truc immense. Et puis, c'est pas du point de vue d'un adolescent, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est... Bon, après, je suis pas une maman d'une adolescente, donc je sais pas. Mais je pense que c'est important pour les ados de faire leur première fois et ça occupe leur esprit. Mais pas de la même façon. Et là, tu sens qu'il y a un truc de... tu sens le côté hyper puritain où c'est tabou d'assumer qu'une adolescente de 16 ans est complètement capable de choisir ses partenaires et de les choisir bien, de les choisir mal, mais de les choisir. En tout cas, il y a tout un truc de un adolescent de 16 ans est capable de dire « je suis prêt » ou « je suis prête à faire l'amour ». Après, il n'est pas forcément toujours capable de savoir avec qui, comment avoir les signaux de « c'est une bonne personne », etc. Enfin, est-ce qu'il va respecter mon consentement, des choses comme ça. Mais ça, c'est le début, quoi. Mais par contre, chez les Américains, il y a vraiment une espèce de tabou autour du fait d'assumer qu'un adolescent de 16 ans a des désirs sexuels, quoi. Et du coup, ils te font des pataquès à chaque fois énormes. T'as envie de leur dire, frérot, mais t'es dans le déni.
Ou alors, enfin... c'est des mauvaises expériences, souvent, quand... par exemple, Euphoria, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, j'entends bien que c'est une bonne série et tout. Moi, j'ai eu beaucoup trop de mal. J'ai une enfant. Je me suis dit, en fait, moi, c'est la période de l'adolescence, c'est quand même une période qui m'angoisse, oui et non, parce qu'en fait, tu essaies de protéger ton enfant, tu as envie de le protéger tout, mais tu pourras pas le protéger tout, donc tu es toujours en angoisse. Donc quand tu vois le pire, ben forcément, tu l'imagines, enfin, tu te dis que ça pourrait arriver à ton enfant. Donc moi, j'en suis pas encore là, quoi.
Ouais, mais après, tu vois, je pensais à une autre série américaine que j'avais vue à un moment donné, ça s'appelle Au fil des jours en français, One Day at a Time en anglais, c'est sur une famille américaine. Et l'adolescente est gay. Et du coup, il y a tout ce truc où, pendant la première saison, elle rentre dans la communauté, dans le sens militant du terme. Et je crois qu'à un moment donné, elle rencontre sa meuf et elle tombe amoureuse et tout. Et il y a tout un truc, tout un pataquès encore, sur la première fois de cet ado qui doit avoir 15-16 ans, quoi, tu vois. Et qui fait tout un truc pour pouvoir coucher avec sa meuf qui a son âge, qui est très respectueuse, qui est un partenaire absolument... super. Et en fait, tout ça pour arriver à un point où elles vont jusqu'à prendre un hôtel et à se rendre compte que la fille est pas prête. Et je suis complètement d'accord sur le fait
c'est
que...
C'est ça aussi, c'est que l'adolescence, c'est ça aussi.
Oui, mais...
C'est-à-dire, c'est le truc de t'as envie, mais en même temps t'as peur, mais en même temps t'as envie, mais en même temps, et si tu tombes pas sur la bonne personne, et en même temps t'as envie, et en même temps tu te forces parce qu'il y a aussi le truc social. C'est-à-dire, quand t'as tous tes potes qui l'ont fait et que toi t'es le seul à pas l'avoir fait, tu te mets une pression aussi, alors qu'en fait, pas du tout. Si tu fais à 16, 19, 20, 21, on s'en bat les steaks en fait.
Mais voilà.
Il y a ce truc-là de la vision. De tes potes ont une importance, mais de ouf.
Oui, carrément. Mais ce que je reproche à la cinématographie américaine, si tu veux, c'est le fait de choisir systématiquement la virginalité de l'adolescence. C'est-à-dire que là, typiquement, la meuf, elle a rencontré une partenaire qui l'entend, qui l'écoute, qui la respecte.
Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est prête, même si elle a trouvé le partenaire adéquat.
Non, mais bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sens aussi que c'est un regard d'adulte qui préfère envisager la sexualité d'une adolescente comme quelque chose de virginal. Et qu'en fait, tu as l'impression que c'est plus difficile pour l'adulte qui fait la série de se dire est-ce que pour une fois, ce serait pas le moment de montrer une représentation d'une adolescence qui passe à la sexualité dans un cadre correct aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est plutôt le côté systémique d'avoir peur d'assumer que ton adolescent peut avoir une vie sexuelle ou on en a besoin.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, la sacraliser un petit peu, ouais, la sacraliser la première fois.
Et d'ailleurs, les fois où j'ai vu des adolescents représentés dans des séries françaises, et c'est très rare, hein, parce qu'on n'a pas ce truc de faire de l'adolescence un sujet, peut-être même à tort, mais typiquement en France, aussi parce qu'on est majeur à 18 ans, typiquement quand tu vas rencontrer des adolescents de 16-17 ans, en fait, plutôt dans la cinématographie française, la sexualité des adolescents existe et n'est pas un débat. C'est-à-dire que quand tu vas présenter un couple, ils vont avoir une vie sexuelle, mais ça ne va pas du tout être le sujet du truc. Par exemple, dans Mortel, qui est littéralement une série teen movie,
ouais, j'ai pas regardé.
Moi, que j'ai adoré, et qui est sur le trio d'adolescence. Alors, autant ils vont te traiter des trucs de dépression de l'adolescence, tu vois, des troubles du comportement, de la dépression, des choses comme ça, du deuil, des trucs très lourds. Par contre, oui, ils assument que les ados à cet âge-là, ils sont sexualisés. Mm. Mais que c'est pas le sujet, tu vois. Là où les Américains, dès qu'il y a question d'adolescents et de couples,
effectivement,
ils vont virginaliser les ados, en faire tout un pataquès. Et en fait, finalement, il n'y a que les séries hyper trash et hyper réalistes comme Euphoria qui vont parler d'une sexualité qui peut être très dangereuse, d'ailleurs, et très crue, et qui vont, par contre, assumer la sexualité des ados, mais dans un côté un peu maléfique. Mais le côté un peu de dire, bah oui, en fait, t'as 16 ans, c'est normal de pas avoir envie de coucher, comme c'est normal d'avoir une vie sexuelle et que ça se passe bien aussi, tu vois, enfin, genre, et ça c'est complètement tabou chez les Américains, et c'est pour ça que Sabrina, je l'ai un peu mal pris entre guillemets, parce que ils vont la déguiser en meuf fille du diable, plus ou moins provocatrice, etc., mais en fait c'est que du maquillage, parce que finalement tu es plus provocatrice, si tu veux, entre guillemets, ou libérée en disant j'assume d'avoir une vie sexuelle avec un partenaire que j'ai choisi, que dans le truc un peu filmé à la Sabrina, où en fait tu sens que c'est l'adulte qui écrit la série, qui est en mode si je sexualise Sabrina, ça va être une catin, quoi. Alors qu'en fait tu peux avoir une sexualité très prude aussi, très monogame, tu vois, enfin...
Écoute, moi j'ai une série adolescente que j'ai beaucoup aimée, justement sur la sexualité des adolescents américains. Ça s'appelle Mes premières fois.
Ah, je connais pas.
Et moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire, parce que tout est pris d'une manière très ironique.
Ouais.
Tout est genre, tous les traits des adolescents sont genre comment expliquer, je dirais pas surjoués, mais tu sais, vraiment, j'ai perdu le mot, vraiment caricaturé, exactement, vraiment très caricaturé et tout. Et c'est une série justement que j'aime beaucoup, et je me suis bien mariée, enfin on a regardé,
mais
avec Lilian.
C'est pas un truc sur Netflix là?
Oui, tout à fait.
Never I Have Ever, c'est genre,
oui,
une
c'est
fille,
ça.
Je crois qu'elle
est indienne.
Ah ouais.
C'est excellent.
Il y avait un truc que j'avais adoré dans cette série, c'est le côté, mais que je vois beaucoup dans les trucs
britanniques. Justement, en étant indienne, en fait, c'est la sexualité, c'est quand même quelque chose d'assez tabou. Et du coup, c'est super bien abordé. Il y a donc son ami qui est gay. Donc, comment est-ce qu'elle va s'assumer assumer sa sexualité. En fait, ça voit plusieurs jeunes gens qui sont tous très différents, sont tous très différents au niveau de leur sexualité, etc. Et du coup, moi, j'ai adoré.
Il y a un truc que je découvre un peu en regardant des trucs british ou américains, où là-bas, il y a beaucoup une grosse communauté pakistanaise, indienne, beaucoup plus qu'en France et depuis beaucoup plus longtemps, je crois. Et en fait, quand je vois des représentations de cette communauté-là, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que chez les Indiens, à la fois, c'est une culture très traditionnelle, et à la fois, il y a une espèce de sensualité. Genre, tu vois, genre dans les communautés françaises, typiquement, quand tu prends l'aspect tradi de toutes les communautés, il y a un truc un peu en mode, ben, soit si t'es tradi, t'as pas de sensualité. Mmh. Et c'est un truc que j'aime bien et que je découvre de plus en plus chez les Indiens, où en fait ils sont...
Mais tu veux dire leur costume traditionnel, quand ils ont prié et tout, ces choses-là?
En fait, je parle de la façon dont ils vont faire des films d'amour. Leur comédie romantique, tu vois, à la Bollywood.
Ah, moi j'adore les Bollywood. Mais c'est vrai qu'en fait, en vrai, tu les vois jamais s'embrasser, tu les vois.
Oui, mais tu vois,
c'est toujours un peu genre.
C'est très tradi. C'est à la fois, il y a un côté que je sais mal en parler parce que c'est pas ma communauté, mais il y a un côté, j'ai l'impression, qui est à la fois très traditionnel. On est vraiment dans un truc monogame, spirituel, tu vois, très tradi, tout ça. Mais par contre, quand ils fantasment l'amour, ils vont assumer une sensualité que les cathos, on n'a pas.
Tu vois, où vraiment il y a un truc chez les cathos, où pareil, on va se dire, ok, les cathos tradis vont pas faire de sexe avant le mariage, mais il y a un tabou autour de la sensualité, quoi. C'est-à-dire que tu ne montes pas ta sensualité, voire même dans l'enceinte de ton couple, dans l'intimité de ton couple, la femme sensuelle, c'est la putain. Alors que dans d'autres cultures, il existe de la place chez les femmes, chez l'emblème de la femme mariée, une femme sensuelle. Mais après, la sensualité est une sensualité monogame qui est réservée à ton mari, mais elle existe, tu vois. Et c'est vraiment une espèce de mariage, justement, entre le côté tradit, le côté sensuel que je connaissais pas et que je trouve chouette. Et que, du coup, j'avais bien aimé dans cette série, tu vois, avoir une adolescence qui assume complètement ses chaleurs, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire,
c'est excellent, ouais. J'aime beaucoup cette série.
On va passer à un autre extrait.
Ça marche.
Pour revenir sur notre thème de base, qui sont quand même les sorcières. Ah, pardon. J'ai pas... Si je fais pas le truc, c'est pas mal.
Charm.
C'est vraiment...
Bah là, moi, je suis
une grande
fan.
Est-ce que t'arrives à comprendre les paroles ?
Tu sais que je les ai regardées il y a pas très très longtemps, d'ailleurs. Just now everybody else, je sais pas.
Parce que même en ayant
c'est hyper années 90. Hein.
Ah mais
c'est genre Sum 41, c'est très rock, très années 90.
Mais c'est vrai que tout à l'année 90, il y avait une espèce d'attrait pour le rock.
Fin
quoi.
90, ah, ouais. Mais c'est et d'ailleurs tout le long en fait de la série, d'ailleurs surtout quand elle a le P3, tu sais le P3, que sa boîte de nuit en fait, genre. Toutes les personnes qui passent, c'est des trucs que j'écoutais, genre j'ai des sœurs plus âgées, c'était hyper années 90, donc le mouvement du rock féminin aussi, vachement, ouais. Justement, elle fait passer beaucoup de groupes féminins et tout. Et ça, c'était tout ce que j'écoutais par le biais de mes sœurs, du rock, non, c'était mon truc, moi, l'adolescence.
C'est vrai que le rock, il a un peu disparu. Bah, c'est ça, maintenant, c'est le rap, la culture populaire, alors que dans les années 2000, c'était vraiment un truc rock. Mais là, j'ai vu, du coup, un épisode, et en fait, on se disait avec ma pote, Piper, elle le trimballe, Léo. C'est une victime de ouf,
c'est
Léo. C'est un truc de taré, surtout que c'est genre un mec...
Moi, c'était quand même ma préférée Piper quand j'étais enfant. Je trouve qu'elle a beaucoup trop la classe.
Mais
effectivement, des fois, je me dis, ah ouais, elle est insupportable avec lui, c'est un truc de fou.
Elle le trimballe, elle lui dit vas-y, va faire là, elle est
sac à dos.
Ciao, j'ai besoin de discuter avec mes sœurs.
C'est vrai.
Elle le trimballe.
Combien de fois elle le tue aussi?
Non.
Elle bute tout le temps, le mec, tu sais, il se fait congeler, il se fait genre. Elle le défonce tout le temps. Et après, elle est super triste, elle dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que si tu regardes à la fin de la saison. Je veux pas spoiler, bon, je spoilerai.
Si tu peux spoiler,
on peut dire,
vous avez pas vu Charmed, oui, c'est
n'écoutez
votre faute,
pas.
Tu vois, c'est bon.
N'écoutez pas si vous n'avez jamais vu Charmed.
Il y a prescription, c'est bon.
Mais c'est vrai qu'à un moment, vers la fin de la saison, en fait, elles font que de la merde. Et du coup, on veut leur enlever leur pouvoir parce qu'elles font que de la merde.
C'est vrai.
Et en fait, j'avais oublié ça.
Non, mais oui.
Et je me suis dit, ouais, mais il y a un moment, en fait, elles aident tout le temps. Tout le temps, et puis elles n'ont jamais de reconnaissance. Il y a un moment, tu le vois, le ras-le-bol.
Ouais.
Et en fait, elles finissent par se battre pour leur pouvoir, parce que ça fait partie d'elles. Mais justement, cette série, je trouve qu'elle est quand même vachement féministe. Pour du 90-2000.
Je me suis posé cette question. En fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, là, tu parlais de Piper. Il me semble quand même que tu vois la transition quand Holly Marie Combs, donc, qui joue le rôle de Piper, est devenue productrice.
Mm-hmm.
Et donc, les premières saisons, tant qu'il y a Prue...
Tout tourne autour de Prue.
Non, mais surtout, en fait, Piper, elle est hyper... c'est une espèce de Hermione Granger, mais encore plus naïve, quoi. Elle a une sorte de naïveté inconditionnelle. Alors que quand elle devient
productrice,
en fait, ça devient la daronne.
Ouais,
c'est vraiment. Alors que c'est le mille. Parce que ça devient aussi.
Mais parce qu'elle devient l'aînée aussi.
Exactement.
Tu vois.
Et ça, tu sens vachement qu'elle
pas,
se durcifie.
J'aimais pas beaucoup Prue parce que je trouvais que en fait, c'était trop égocentré sur elle, tous les épisodes. Comme si la meuf, il fallait qu'on parle d'elle tout le temps, tu vois. Et tous les épisodes vers la fin, juste avant qu'elle est partie, je trouve que tout tourne autour d'elle. Chaque épisode, c'est elle. Et moi, il y a un moment, en fait, elle m'a gonflée. Et je j'aimais pas trop son jeu, en plus. Et je préfère les épisodes après. Après Prue.
Ouais,
donc,
ouais,
après
mais
la
moi,
saison
j'ai été
3.
Plus marquée à toutes les saisons sans Prue. Et tu vois, d'un autre côté, là, je regardais... et on a vu quelques épisodes. Et en fait, il y avait plein de trucs où tu sentais que c'était les années 2000, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a tout un truc sur les comptes. là où ils ont pris Snow White. Ouais. Mais en fait, si tu veux, là, en gros, la sorcière maléfique, elle a accès à plein d'artefacts de contes. Ouais. Et donc, elle envoie, par exemple, elle transforme
les chaussures
en Cendrillon. Mmh. Exactement. Et en fait, tu vois la robe de Cendrillon, enfin la robe de Phoebe. Mais en fait, tu sens les années 2000.
Elles sont 2000. Hyper sexy en plus.
Courtes. En fait,
elles sont très sexy. Tu les regardes, elles sont toujours habillées avec des croc tops. Après, moi, je trouve qu'elles ont grave la classe. Elles sont trop bien. Elles sont trop bien fringues. Et moi qui suis dans le métier.
Tu sens que les costumiers, là où moi, j'ai envie d'avoir des grosses robes en mode princesse, vraiment dans le sens princesse, royauté. Tu vois, genre, j'ai envie de voir une meuf habillée comme Elisabeth II quand elle faisait des représentations, enfin tu vois, des grands des jubilés, des trucs où elle a des énormes robes trop stylées. Mais là, en fait, tu sens que c'est un regard de garçon qui a voulu mettre le maximum de peau dessus, au point où en fait ça en devient presque ridicule, tu vois. C'est une espèce de modernisation de la robe de Cendrillon, sauf qu'effectivement c'est un bustier crop top avec une robe avec plein de longueurs différentes, pour bien qu'on voit ses jambes et tout, tu vois. Enfin,
alors moi, justement, à contrario, je trouvais que en fait, justement, c'est des femmes fortes. Elles sont la plupart célibataires, enfin, ou en tout cas elles ont pas besoin d'hommes pour vivre. Elles sont là, elles sont en place, et du coup, en fait, elles sont hyper sensualisées. Mais elles sont pas vulgaires, et au contraire, en fait, justement, moi j'ai aimé de retourner cette situation, de dire, mais en fait, une princesse, c'est pas que justement une robe où c'est la galère pour marcher, où t'es obligé, où ça pèse 3,5 tonnes, où en fait c'est contraignant. Et justement, bah là, en fait, c'est bah oui, je monte ma peau, et alors c'est pour ça, c'est pas parce que je monte ma peau que je suis une pute, mais que je peux être une princesse aussi.
Non, bien sûr, c'était les premiers rôles uniquement féminins. Et d'un autre côté, tu vois, ma pote, elle me disait, ah ouais, tu vois, les corps, ils étaient plus ronds. Et
de fou
dans Charmed. Et en fait, elle me disait, aujourd'hui, tu fais Charmed aujourd'hui, toutes les actrices, tu sens qu'elles vont à la salle. Alors que Charmed, en fait, elles sont minces, voire maigres, mais c'est pas des corps sportifs.
Et encore, elles sont très... En fait, c'est même pas ça, c'est juste qu'elles sont hyper différentes. Parce que Piper, au début, c'était quand même celle qui était un peu plus chubby, tu vois. Paige, c'est celle qui est genre grande, mince, etc. Et Phoebe, elle est plus petite mais ultra musclée. Et en fait, ça rentre dans leur personnage aussi. Piper, c'est une cuisinière, elle aime manger. Et en fait, c'est juste des caractères différents, des caractères physionomiques et psychologiques aussi. Et en fait, je trouve qu'ils sont quand même vachement bien représentés, quoi.
Ouais, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tu referais Charmed, tu aurais éventuellement des actrices obèses.
Mais par exemple, ils ont refait Charmed. Effectivement,
ouais, c'est vrai,
et y a une comédienne qui est métissée, tu vois. Et c'est aussi bien, c'est très représentatif et tout. Donc en fait, c'est en fonction aussi des années. Mais ouais, ils ont refait. Alors moi, j'ai pas super accroché parce que.
L'histoire, elle est écrite avec les pieds, donc.
Faut dire ce qui est. C'est pas très bon. Puis tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de reprendre une série qui a déjà bien marché, quoi.
C'est clair.
Je pense qu'on va, arriver donc à la fin de cette émission. Peut-être qu'on va faire un dernier petit.
Tu veux un dernier ?
Allez, le petit dernier pour la fin. Okay. Et puis ensuite, on se dit au revoir. Et puis voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette émission sur les sorcières.
Je pense que j'aimerais bien éventuellement un jour peut-être en refaire un truc sur les sorcières, mais avec plus de contenu, plus de recherche, tu vois. Bref. Alors, dernier extrait. Subtil celui-là, il est technique.
Ouais, il est technique.
Pourtant, c'est probablement encore plus connu que que tous les extraits que je t'ai montrés. Tu donnes ta langue au chat.
Fantasia ?
Non, plus connu encore.
Attends. Attends, pour le dernier, ça serait con que je le trouve pas, quand même. En plus, je reconnais la musique.
Je donne ma langue au chat. s'agit de Harry Potter.
Ah ouais, punaise. Ah oui, t'as pas... Ah oui.
C'est tiré du 6e film.
Ah ouais, c'est
la chanson s'appelle Slughorn Confession. C'est un moment super beau.
Ah oui, c'était très subtil. Autant j'adore Harry Potter aussi, mais alors là...
En fait, c'est le moment où genre il rencontre Slughorn, son professeur de potions, chez Hagrid, et que Slughorn lui dit ta mère, elle m'avait offert un bocal avec une fleur de lys qui se transforme en poisson. C'était de la très belle magie. Et le jour où elle est morte, Francis le poisson a disparu. Et il lui dit à ce moment-là, donne-moi le vrai souvenir de Voldemort que tu caches depuis des années. Parce que sans ça, tu ne fais pas honneur à la mémoire de ma mère. Sans ça, le bocal restera vide à tout jamais. Et je trouve que c'est un des plus beaux moments du film, de toute la saga.
Voilà, bah on termine sur une très bonne note sur Harry Potter. Eh bien, c'était La Voix du Béthir. Si vous êtes sur Radio Galère 88.4, c'était donc Ludie, Luce et...
Letchi.
Et les chis, c'est ça. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye. Tracked by the feds because the infrareds are aiming at the back of your head, blasting your heads off of your shoulders. Boy, I told ya, sleep on my soldiers. You never wake up from your coma. It's all over. Nice to motherfucking know ya. Now you on a one-way trip to see Jehovah. I told ya,
I scoped ya. Clan getting fold up.